Salut auditrices et auditeurs, vous êtes bien calés sur le 88.8. Aujourd'hui, la grenouille accueille les abeilles. On est ensemble pour un peu plus d'une heure, pendant laquelle nous reviendrons sur l'histoire de ce collectif portant un projet d'habitat social participatif depuis 2011 à Saint-Mauron. Nous sommes aujourd'hui en novembre 2019. La question du logement est critique à Marseille. Les initiatives habitantes et participatives sont donc à regarder d'encore plus près. On le fait tout de suite avec vous. Salut les abeilles, comment allez-vous? Vous allez bien? Ça va?
Très bien.
Bon. Autour de cette table, il y a Dominique, Marianne, Anne-Marie, Bruno, vous n'êtes pas représentant des abeilles. Vous êtes là en fait parce que vous pouvez être là cet après-midi, c'est ça Dominique?
En effet, nous sommes disponibles.
Voilà, vous êtes disponibles. Et c'est aussi un peu comme ça que se jouent les choses chez vous. Vous êtes assez organique. Une toute petite question, pourquoi les abeilles? Et puis alors, des abeilles avec un H en plus. Tu t'y colles Anne-Marie?
Alors, tout simplement parce que le projet, c'est Habiter Marseille et que le HAB, c'est les trois premières lettres de Habiter et le A, c'est la fin de Marseille. Donc, ça nous avait semblé un raccourci assez intéressant. Donc, nous sommes des abeilles avec un H et non pas avec une H.
Alors, au-delà de la singularité de votre démarche, et de l'intérêt que nous, grenouilles, nous portons aux démarches collectives, ce qui fait aussi que nous nous retrouvons aujourd'hui dans les studios, c'est un travail de retour sur l'expérience qu'on fabrique ensemble depuis quelque temps. Si Regain, structure d'accompagnement de projets d'habitat participatif, travaille avec vous à une capitalisation institutionnelle, on pourrait dire, on tente à Grenouille un retour d'expérience plutôt sensible, c'est ce qu'on a essayé de faire. Alors, nous allons écouter tout de suite une première émission co-fabriquée ensemble, dans laquelle vous vous racontez, vous questionnez aussi la notion de collectif, de participatif, vous revenez sur quelques moments clés de votre vie d'abeille, ainsi que sur le dépassement de points de blocage. Il y en a eu et dans votre actualité, on verra qu'il y en a et qu'il y en aura certainement encore d'autres dans votre processus. Mais avant de lancer l'émission, après laquelle d'ailleurs on va se retrouver pour parler donc de votre actualité de projet, je vous propose avec Bruno de faire un petit tour sur les grandes étapes du projet pour donner quelques repères à nos auditeurs. Bruno, tu nous fais ça en, je crois, quelques 10 points.
Exactement, donc les 10 grandes étapes des 8 ans des abeilles qui ont débuté donc en décembre 2011 par la création de l'association Habitat Groupé Julien 12 qui est l'association porteuse du projet dans le cadre d'un appel à projet d'habitat participatif lancé par la ville de Marseille sur un terrain qui se situe à Saint-Mauron. En juin 2012, nous choisissons notre architecte qui est M. Vincent Rigassi. En janvier 2013, nous signons la convention de partenariat avec l'organisme HLM Pacte 13. En octobre 2013, nous déposons le permis de construire. En juin 2014, le permis de construire est obtenu. En septembre 2014, on décide de se séparer de Pacte 13. Et donc en 2015, nous sommes à la recherche d'un autre organisme HLM. C'est en 2016 que le bailleur social Grand Delta Habitat s'engage dans un travail partenarial avec nous. Le projet est également soutenu à ce moment-là par la ville, la métropole, la Fondation Abbé Pierre et la Caisse des dépôts. En janvier 2019, nous avons obtenu la dérogation du ministère qui permet de construire du logement social à Saint-Mauron, parce qu'il y en a déjà trop dans ce quartier. Et la semaine dernière, nous avons enfin la décision favorable de financement de l'État pour le logement social, permettant de commencer le chantier début 2020.
Alors là, c'était donc les grandes étapes clés pour donner quelques éléments supplémentaires à ce qui est raconté dans ce que l'on va écouter ensemble. Je ne vous ai pas demandé de vous présenter. On ne sait pas qui vous êtes parce qu'on va savoir là, maintenant, tout de suite, qui est ce collectif des abeilles. Il y a vous qui êtes ici autour de la table. Il y a ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous cet après-midi. Et on les découvre maintenant.
Rue Julien, Saint-Mauron, 3e, Marseille, Bouches-du-Rhône, France, etc.
Devant le terrain sur lequel va s'élever le futur immeuble construit et conçu par des futurs habitants.
Je suis Monika Śmiechowska. Donc mon nom il dit très bien, c'est je suis polonaise.
Moi je suis Bruno.
Clémence, je suis venue avec mon mari Sam et mon fils Michael, qui a 7 mois et une semaine. On est arrivé dans le projet il n'y a pas longtemps.
Bonjour, je suis Myriam, je suis maman de 3 enfants, qui a des garçons. Je suis dans le projet, ça fait 4 ans ou 5 ans. Ça m'intéresse beaucoup parce que c'est un projet qui permet de découvrir plein de choses par rapport à moi. De connaître des personnes, de nouveaux visages aussi.
Collectif des abeilles, c'est pas mal ça. Comment moi je peux me transformer, comment je peux essayer de travailler la transformation sociale et surtout comment on peut décider qu'on vit de telle ou telle façon, malgré peu de moyens que peut-être on a dans la vie, que comment on a le droit de vivre avec dignité.
Je cherchais des alternatives à la façon de se loger entre le locataire et le propriétaire. Ni l'un ni l'autre ne me convenait, donc je cherchais des choses, des alternatives.
Je suis aussi très sensible à la question écologique.
Dominique, donc je suis dans le collectif depuis début 2014. Voilà, j'habite dans le quartier de la Belle de Mai, et donc je cherchais à m'investir aussi dans ce quartier, me rendre utile aux autres et à moi-même. Et Bruno a parlé de ce projet et ça m'a tout de suite intéressé.
Je suis Mohamed Jamil, je suis originaire d'Indonésie. C'est loin d'ici, hein, en Indonésie.
Anne-Marie, je suis dans le projet depuis à peu près 2012. Je ne suis pas tellement certaine des dates. Je suis une personne qui a besoin de donner du sens à ce qu'elle fait. Et c'est très important pour moi aussi de m'investir pour l'intérêt général, mais au-delà de ça, pour contribuer à l'émancipation. Je pense que la notion importante, c'est l'émancipation.
Donc, qu'est-ce qui me plaît dans l'idée de s'investir dans ce projet ? C'était surtout le fait que je cherche à me réapproprier en tant que citoyen des capacités de choisir, de décider et d'agir en fonction de mes propres nécessités.
Je suis Gabrielle, Gabi en général.
Maintenant, on est bien colorisé. Il y a le noir là-bas, il y a moi le marron, lui là aussi autre chose. Il y a deux Arabes aussi, tout ça. Si on est bien colorisé, bon, et tout ça. Et bon, je suis très content avec tout ça.
Je m'appelle Sam.
Alors, moi, c'est Colline. Alors, je suis dans le projet depuis octobre 2016. Je suis arrivée dans ce projet pas vraiment par hasard. Hein. J'avais une recherche qui m'était inconnue. mais inconsciemment, je pense que je cherchais une vie, enfin, à partager quelque chose, ma vie avec d'autres et aussi dans un projet commun.
D'accord. Dans un centre social. Et l'intérêt de ce collectif, c'est de dire au monde, à la société, au monde des logeurs, au monde des institutions, nous sommes là. Nous avons le droit de choisir dans quelles conditions nous voulons vivre et comment nous voulons vivre. Et c'est cette histoire que je veux porter dans ma vie.
Alors, je suis Marianne. J'ai toujours pensé qu'il fallait rêver, même si le rêve n'aboutit pas.
Parce que moi aussi, mon idéal, c'est un peu comme ça. Mon philosophie, c'est de lutter quand même pour les droits, tout ça. Moi, je viens de Pérou, je connais bien. Mais en raison, je suis très content de connaître ce collectif. Et on va voir comment on avance après. Et voilà, merci.
J'habitais en Allemagne pendant 5-6 ans dans un collectif magnifique. C'est mon expérience de vie magnifique. Il y a les gens de 5 différents continents, de l'ensemble de 18 personnes. J'ai la photo. Alors, la définition collective pour moi, c'est simplement partager. C'est-à-dire qu'il faut donner quelque chose, chacun, il faut abandonner quelque chose aussi, donner quelque chose aussi. Et c'est ça pour trouver une valeur plus puissante ensemble. Quoi.
Le collectif, c'est une somme d'individus où le collectif est plus que la somme des individus. C'est-à-dire que il y a les individus, puis après, il y a quelque chose qui se passe, qui est la dynamique de groupe, de l'intelligence collective, qui fait qu'il y a une puissance d'agir qui est plus importante. Et il y a un sentiment, bon, qui est déjà allé dans une manif, c'est bien comment on ressent cette puissance du nombre, quoi. C'est un collectif qui est marqué par sa diversité. Une grande diversité dans tous ces aspects, ça c'est un aspect très riche. Une grande envie de faire ensemble, beaucoup de bienveillance et beaucoup de plaisir à travailler ensemble, même si évidemment il y a toujours des petits moments où ça grince, comme dans toute interaction humaine. Une grande persévérance et beaucoup de persévérance et beaucoup de solidité, je crois.
Dans le collectif, chacun sa voix. Comme je suis là, je vais m'exprimer, je vais me dire ce que je sens. Ça, pour moi, c'est une grande leçon. C'est un développement que c'est, on peut dire quoi encore, c'est pas développement, on peut dire civilisé. Des mots civilisés pour moi, et ça m'a civilisé plusieurs choses. Ouais. Les abeilles, ce sont des personnes qui sont tout gentilles, on se comprend. Ouais, il y a des moments de haut, de bas, mais toujours on s'arrange, on est compréhensif. Ouais. Chacun a le droit de dire ce qu'il veut, on a le droit de tout arranger pour aller en avant.
En tant qu'individu, il y a des choses qu'on ne peut pas transformer tout seul. C'est parce qu'il y a un collectif qui apporte une énergie nouvelle, des conditions nouvelles, et qui permet aussi aux personnes de pouvoir évoluer, apprendre tranquillement. Parce que bon, ben, nous, vous voyez, notre projet, il n'est pas à court terme. Hein, donc on prend notre temps, on apprend, on baisse un petit peu les bras, mais à côté de l'autre, il n'a pas baissé les bras, donc on s'appuie un petit peu dessus. Et après, c'est à notre tour d'être costaud, et voilà, et on s'aide comme ça.
C'est un lieu d'expérimentation. C'est un lieu où on apprend qu'il y a mille vérités, pas que la sienne, que chacun a sa propre vérité sur une même chose, c'est-à-dire on vit une même chose. On est là pour construire cet immeuble, ce projet, et que chacun, sur ce que l'on fait chaque jour en réunion ou dans nos activités, a sa propre vérité. Et du coup, c'est apprendre à écouter la vérité de l'autre et de la faire sienne. Et que ces multitudes de vérités, c'est apprendre à faire en sorte que ce soit le projet qui est prioritaire et donc trouver un terrain d'entente. Et ce n'est pas le projet en tant qu'immeuble finalisé, c'est comment on est en train de construire ce projet.
Une des forces du collectif, c'est de s'être renouvelé, parce que finalement, aujourd'hui, aucune des personnes de l'origine n'est présente dans le collectif. Donc c'est complètement renouvelé. Et en revanche, lui, le projet est toujours existant. Donc ça, c'est assez étonnant. Et c'est peut-être ce qui peut définir aussi un collectif qui porte un projet, c'est que les personnes qui composent ce collectif, c'est une chose, le collectif, c'est encore une autre chose, et le projet, c'est encore une autre chose.
Très vite, j'ai vu que ce collectif voulait aller à l'extérieur, donner l'idée, mais plus que ça, j'ai l'impression, enfin j'ai ce sentiment-là, que concrètement, il va se passer des choses qui vont aussi à l'extérieur comme à l'intérieur. Et ça, c'est très important pour moi.
Eh bien, tout à l'heure, je dessinais en écoutant Anne-Marie et Gabi. Je dessinais une sorte d'arbre. Et voilà, c'est ça. C'est ça, le collectif des abeilles. Bon, il n'y a pas d'image à la radio. Hein. Mais voilà. Et en fait, c'est un tronc qui est parfois pas toujours solide, apparemment. Mais quand même, il est là et il monte. Et il y a plein d'éléments qui se forment autour. En fait, c'est les feuilles, des branches d'abord, puis les feuilles, et les feuilles qui deviennent grandes, et des petites naissent, etc. Enfin, c'est ça le collectif. C'est tout le temps en train de travailler, c'est avancer et travailler ensemble pour avancer encore mieux et pour arriver au projet. Pour moi, c'est ça le collectif des abeilles. Aujourd'hui, ce que je ressens.
All that is you, all of the signs, all of the symbols conjured in a lie. All that is you, all in a dream, flickering silently beneath a black screen.
Ce projet est subversif parce que il met l'habitant, le futur habitant, dans le process des professionnels qui professionnent. Et tout d'un coup, là, il y a des chiens dans le jeu de quilles qui arrivent et qui foutent le bordel. Je crois que c'est vécu comme ça, vraiment. Alors, il faut savoir que dans le milieu des professionnels du logement social, mais je pense que dans tous les milieux professionnels, c'est comme ça, on est dans l'entre-soi et on essaye de faire au mieux pour un futur utilisateur qui est fantasmé et qui est pas, qu'on ne connaît pas, et qui après, quand on le connaît, parce que quand on s'occupe non pas de programmation ou construction d'immeubles, mais après, quand on s'occupe de la gestion locative, il y a une blague un peu ironique dans le monde du logement social, c'est que les locataires, ils sont un peu pénibles, et que, en fait, l'idéal, ce serait de pouvoir faire des immeubles sans locataires, comme ça, on ne serait pas embêté. Donc là, c'est subversif parce que le locataire, il est là. Il se prétend lui-même acteur à part entière de son habitat. Ça, c'est vraiment subversif parce que ça fait éclater les discours institutionnels et hypocrites. La gestion de proximité, le locataire, les institutionnels, ils en ont plein la bouche.
Et le subversif, c'est quand on voit que quand il est là vraiment, ben, la vérité, elle éclate. En fait, il faut qu'il retourne à sa place, quoi. C'est en ça que c'est très subversif. Le deuxième aspect pour lequel aussi on peut dire que c'est subversif, c'est que ça oblige les professionnels à interroger leur manière de faire, qu'ils n'ont pas l'habitude d'interroger parce qu'ils déroulent leur process comme d'habitude. Et là, tout d'un coup, le fait qu'il y ait des yeux candides, qu'on dit « Ah, mais tiens, pourquoi on fait ça ? Mais tiens, on ne pourrait pas faire autrement, etc. » Ça aussi, ça a un côté qui peut bousculer les habitudes et qui est assez subversif. Voilà.
Il y a au niveau des institutions un fonctionnement qui est habituel, notamment on le voit avec le bailleur social, hein, il y a cette difficulté de compréhension que ce projet collectif ne peut pas être traité comme un projet traditionnel. Ils doivent apprendre à fonctionner à un rythme différent. C'est-à-dire qu'ils font, ils gèrent ce projet d'habitat collectif comme ils gèrent une opération traditionnelle, dans des heures de bureau traditionnelles. Et en fait, ensemble, nous avons besoin d'inventer une façon, une nouvelle gestion de la relation futur habitant et bailleurs sociaux pour concrétiser ce projet-là. Et c'est... Nous n'y arrivons pas.
Alors, on va chercher.
Et notre problème, c'est que qu'est-ce que considère comme participatif. Et du coup, on s'est rendu compte de ça parce que pour nous, c'était assez clair qu'est-ce que c'est participatif. Et on s'est rendu compte que c'est pas si clair pour les autres. C'est-à-dire, participatif, ça signifie pas être informé ou tout simplement, de temps en temps, on fait des réunions et on peut un petit peu prendre la parole, c'est faire ensemble. Et c'est-à-dire que les personnes avec qui on cause souvent, ils ne sont pas décisionnaires. Et du coup, on a pris pas mal de temps pour essayer de les faire comprendre que notre projet consiste à être participatif. On était même obligé de mettre un petit peu de pression à travers des autres partenaires. Je parle de pression sur notre bailleur social. Et pour qu'ils essayent de rendre, pour qu'on puisse faire des choses plus participatives. Pour l'instant, ce n'est pas encore résolu. On a à peine de mettre en place les ateliers dits plus participatifs, réflexion sur le bilan financier et tout ça, plus participatif, étant donné que, aussi pour nous, en tout cas pour moi, c'était apprendre. Ce n'était pas du tout ma domaine de compétences, c'était un langage chinois pour moi. J'ai pris mon temps privé pour apprendre, pour faire des réunions, pour aussi être traité de façon dite plus professionnelle, parce qu'on n'était pas souvent pris en sérieux. Tu rencontres la personne qui t'a dit, de toute façon, vous ne savez pas, nous, on sait, donc un petit peu comme les enfants, mais donc faites comme on vous dit. Non. Donc du coup, on était obligé d'apprendre, de prendre des nouvelles compétences pour pouvoir répondre aussi à ce langage assez particulier, en tout cas pour moi. Qui n'est pas le langage, Donc c'était vraiment un bon apprentissage parce que du coup, ouais. Ce qui est assez bizarre, que quand même les gens, les institutions, aussi le bailleur, s'investit dans le projet parce qu'il y a quelque chose dans ce projet qui intéresse tout le monde. C'est aussi dans l'air des temps. Et dans certains pays, c'est beaucoup plus développé. Par exemple, en Allemagne, Jamil pourrait en parler, l'habitat participatif. Mais du coup, il y a cette envie de participer, mais avec une contradiction. Nous, on ne veut pas faire participatif. C'est pour ça qu'on pense qu'on essaie d'un coup, on s'est rendu compte de ça. Parce que si vous vous engagez dans un projet participatif, alors pourquoi vous ne faites pas participatif? Alors peut-être c'est une notion de participatif qu'il faut redéfinir. Donc du coup, c'est très intéressant parce qu'on essaie de faire comprendre aussi, nous, on apprend ensemble. Mais c'est pas facile, comme Gabi l'a dit, les autres aussi, que dans ce système dans lequel il y a des personnes qui... Comment s'appelle ça? Les gens qui connaissent, les gens qui ne connaissent pas. Les experts, les histoires des experts. Et du coup, un apprentissage ensemble, c'est pas si facile. On a essayé de faire ça comprendre, au bailleur, ça, parce qu'il n'y a pas d'expérience comme ça, vraiment, en tout cas à Marseille. nos locales, il y a cet apprentissage de participatif dans le sens qu'on essaye de défendre.
Il y a plusieurs niveaux de difficultés en fait. On a effectivement le contexte sociopolitique avec ses institutions, avec tous ces on faisait la liste des acronymes l'autre fois. T'arrives tout nouveau dans un projet comme ça, t'es perdu rien que par les termes quoi, qui sont utilisés et qu'il faut arriver à maîtriser. Mais en plus, personnellement, on est déshabitué de s'engager parce qu'à tous les niveaux, on nous demande d'être soumis, d'être subalterne, d'obéir et de suivre et d'emprunter que les voies qui sont balisées par les institutions et par le système en fait. Mais faire autrement, ça coûte tellement d'énergie qu'on s'épuise individuellement et c'est grâce au collectif qu'on arrive à maintenir une certaine permanence parce que à tour de rôle, eh ben il y en a un qui a la tête un peu hors de l'eau quoi. Les autres, on peut nager pendant un certain temps à l'intérieur de nos propres difficultés personnelles, mais le collectif permet de maintenir la pression, en fait. Ça, c'est ça, l'utilité du collectif. Et de pouvoir contaminer le milieu du collectif qui nous connaît. Et effectivement, quand je disais qu'il y a des personnes dans les institutions qui nous aident, c'est parce qu'ils sont touchés aussi par ce qu'on est en train de faire. Il y a quelque chose qui les touche dans ce qu'on est en train de faire. Et ça leur plaît de nous aider, de nous montrer des pistes et de nous rappeler des « Oh, attention, là, vous avez une deadline, vous avez telle possibilité, oh, il y a tel bailleur qui est en train d'arriver. » Bon, il y a tout ça.
USH, Cégette.
Ah oui, USH, oh là là. C'est 92 communes quand même, c'est beaucoup. Hein.
USH. On a dû apprendre un langage, qui n'est pas habituel pour des... Là, je parle du langage que l'on a dû apprendre par rapport au projet, qui est de construire un immeuble, nos logements. Un langage qui est fermé, puisqu'il est, c'est un langage utilisé par les professionnels, qui n'est pas connu des habitants. Quelques mots, QPV, ANRU, PLAI, PLUS, PLS, PC, EPF, Métropole, bailleur social, qu'est-ce qu'un bailleur social ? Comment fonctionne le logement social ? Qui finance les logements sociaux ? Comment se construit un bilan opérationnel ? Qu'est-ce que c'est avoir un logement en PLAI ? Qu'est-ce qu'un logement en PLS ? Qu'est-ce qu'un logement en PLUS ? Tout ça, on a dû se former. Et c'est vrai qu'on a eu... On a la chance d'avoir Anne-Marie, qui, elle, était une professionnelle, donc qui nous a appris à lire un bilan opérationnel. Mais tout ça, c'est être... apprendre un monde, un langage qui est complètement différent. Et à contrario, le bailleur social n'apprend pas forcément notre langage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réciprocité dans l'apprentissage. Et elle est là, la difficulté. Ce n'est pas encore passé dans les têtes. On n'en est pas encore là.
Il y a différents types de projets. La plupart des projets qu'on nomme participatifs, c'est en fait un groupe de gens qui forment un collectif avec le projet d'acheter un habitat commun et d'être propriétaire soit chacun de son logement, soit collectivement, peu importe. Mais en tout cas, la plupart du temps, c'est acheté. Donc, c'est notre projet d'habitat participatif en locatif social, c'est-à-dire d'être présents en tant que futurs habitants sur toutes les phases de conception d'un logement social. Ça n'existe pas. Et ça trouble beaucoup l'ensemble des acteurs habituels du logement social. Et c'est très atypique, d'autant plus compliqué que ce qu'on entend habituellement par habitat participatif, c'est pas vraiment ça, en fait. C'est très souvent en ruralité, quelquefois en ville, bien sûr, mais quasiment à 90% des projets, c'est de l'achat, c'est de l'accès à la propriété. Après, en locatif social, il y en a plusieurs qui sont quasiment systématiquement un mix accession à la propriété. Location, pour pouvoir faire une sorte de mixité entre des gens qui peuvent accéder à une propriété par les dispositifs d'accès à la propriété du logement social, et puis du logement social. Et donc il y a une organisation qui s'opère entre ces locataires du logement social et ce groupe de propriétaires. Notre projet 100% habitat participatif, en locatif, enfin 100% en locatif social, je crois savoir qu'il y en a un autre en France qui est aussi à l'état de projet. Donc c'est vraiment... c'est plus que du défrichage, quoi, ce qu'on fait.
Oui, on est aux prémices. Aujourd'hui, l'habitat participatif en locatif social, c'est une idée, c'est une théorie, c'est un mot, une expression. C'est, alors, on peut être perçu, on est certainement et on est sûrement perçu comme des empêcheurs de tourner en rond, des gens un peu chiants qui se mêlent de tout, qui veulent tout regarder, tout gérer, tout voir. Non, on ne veut pas tout regarder, tout gérer, tout voir. On veut faire ensemble. On veut faire ensemble. C'est ça l'habitat participatif, faire ensemble. Et pour l'instant, l'espace, il faut qu'on le conquiert. Parce que c'est ensemble qu'on va pouvoir créer des lieux d'habitation intelligents et pérennes. Et pérennes.
Mais... moi, la réunion, la dernière réunion de comité de pilotage où j'ai assisté, j'ai rencontré, je pense pour la première fois, les personnes partenaires, la FAP et puis la mairie. Je crois que c'était ces deux partenaires-là. Et je les ai trouvés très, très ouverts à notre projet, très souteneurs, c'est ça ? Et voilà, donc on est accompagné, voilà, on est bien accompagné, je pense. Et ça peut-être aider aussi.
On a dû trop parler hier. Et aujourd'hui,
on n'entend pas ta voix. Enfin, moi, je pense que ça aide. Que ça aide. Ouais, ça nous aide beaucoup. Et on n'est pas seul avec ça, quoi. Avec notre projet.
Quand je suis venue au collectif, je suis venue avec une sorte de rêve que j'avais envie de participer à un rêve qui va se mettre en place. Comment on peut vraiment ensemble, en tant que collectif, décider ensemble, comme je disais, de façon par consensus et construire dans le futur ce bâtiment. Et je me suis rendu compte que la rêve est un petit peu éloignée de la... Ouais, était un petit peu, il y avait une sorte d'hypocrisie à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y avait certaines personnes qui avaient dû... Ils essayaient de tout imposer aux autres. Et il y avait aussi beaucoup de violences mentales et violences verbales. Et ce n'est pas ça que à la base, je cherchais. Mais comme je me suis rendu compte aussi qu'ensemble, on peut. Que c'est une difficulté qu'on peut ensemble dépasser. Mais ça a pris un petit peu de temps parce qu'au début, quand tu es dans le collectif, tu essaies d'observer. En tout cas, dans mon cas, moi, j'observe, je ne prends pas la parole parce que j'essaie de voir comment ça fonctionne. Parce que pour moi, c'est le respect aussi du travail des autres. Et comment m'essayer. Et du coup, au moment, je me suis rendu compte assez vite qu'il y a dysfonctionnement. Quand j'ai certaines expériences de la violence, non-violence et dépassement de la violence, je me suis rendu compte que. C'est tout simplement comportement de certaines personnes qui est contradictoire. Ils ont des idées, par contre, ils ne se comportent pas de la même en liaison avec les idées. Donc il y avait cette malaise bizarre qui s'est installé. Que tu es là, mais quand même tu vois, tu sens la violence presque verbale et tu ne sais pas comment réagir. Mais moi, je prends position. En général, je pense que si on ne prend pas la position, on fait partie aussi de la violence. Donc, j'essaye de un petit peu protéger la personne. Et du coup, on s'est rendu compte, on commence à communiquer qu'il y avait une sorte d'isolement des personnes qu'il y avait une personne qui commençait à dire des choses difficiles aux autres, tout le monde était isolé dans cette situation de violence. Ça m'a fait tout à fait penser au système, parce que c'est ça qui est construit. Et c'est pas ça que j'avais envie qu'on reproduise dans notre collectif, parce qu'on essaye de transformer, n'est-ce pas? Et on s'est rendu compte qu'ensemble, on peut dépasser cette difficulté. Et malheureusement, il fallait faire partie de la personne en question. Parce que malgré le fait qu'on a essayé de, plein de fois, de façon aider à changer son comportement, ce n'était pas possible. Parce qu'à mon avis, il n'est pas venu pour le même objectif que moi, que nous, en gros, en collectif, parce que ce n'est pas seulement moi. Et c'était vraiment une expérience importante parce que tu t'es rendu compte que moi-même, je ne pouvais pas seul dépasser cette difficulté. C'est vraiment ensemble qu'on pouvait dépasser cette difficulté.
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, tant qu'on avait les plénières, on se retrouvait en plénière et qu'on discutait en plénière, et bah, y avait tout un carcan de comportements et de règles à suivre, effectivement. Et pendant les réunions, on avait certaines personnes qui vivaient mal des situations, qui pleuraient pendant les réunions. Mm-hmm. Et bien, il n'y a aucun moment où on pouvait parler de ça. En plénière, ce n'était pas à l'ordre du jour. Ce n'était jamais à l'ordre du jour. Donc, il y avait plein de choses avec lesquelles on n'était pas d'accord, qu'on ne supportait pas. Mais donc, le seul moment, c'était quand on sortait de la plénière, on se retrouvait en bas, au moment de se dire au revoir. À un moment donné, on a fini par se poser la question, mais... vous trouvez normal que ça se passe comme ça? Vous trouvez normal que telle personne pleure pendant la plénière? Qu'on puisse pas avoir accès aux documents? Quand on demande des documents comptables, bizarrement, ils les retrouvent pas dans ces... On a commencé à se poser plein de questions après les plénières, à l'extérieur de la plénière. Donc le collectif s'est mis à vivre, on va dire, une petite partie comme ça, une petite protubérance hors des plénières dans laquelle a commencé à parler. Et on s'est rendu compte, ceux qui débarquaient dans la plénière, qu'en fait, il y avait déjà des problèmes importants qui existaient dans le collectif, quoi. Et qu'il y avait un turnover important dans le collectif aussi. Donc les gens, ils supportaient 3 mois et puis après, ils se barraient, quoi. Et donc, quand on a commencé à poser les questions à l'extérieur, quand on a commencé à obtenir des réponses à l'extérieur, eh ben, on a commencé à poser les mêmes questions à l'intérieur et à exiger des choses, des documents, les fameux classeurs, etc. On a commencé à demander des choses très concrètes. Un autre type de comportement très concret. Et là, la tension, bien sûr, a augmenté davantage.
Avant qu'on décide l'exclusion, on a essayé, pendant des mois et des mois, qui ont fait des années, qui ont fait plus d'un an, on a essayé de mettre en place des outils pour essayer de réguler le collectif. Donc, on a accumulé les outils, les règles, les bâtons de parole, les cahiers de résolution où on écrivait les résolutions à la fin des plénières, les aides extérieures d'associations qui s'étaient spécialisées un peu dans dans l'aide à l'accompagnement de collectifs en difficulté. Donc vraiment une accumulation d'outils qui dans notre cas présent n'ont pas permis de débloquer la situation parce que le problème était ailleurs que dans un fonctionnement et des règles et des outils, en fait.
Après ce moment dur, ce que tu disais, Monica, et on l'a tous vécu et ressenti, c'est qu'il y a eu besoin d'un moment de souplesse, de revenir à ce qui est important, à ce que l'on est en tant qu'être humain. Et il y a tout de suite 3 mots qui ont été... qui se sont enracinés dans le collectif, c'est bienveillance, non-violence... et confiance. Et le collectif aujourd'hui s'appuie sur ces 3 mots pour fonctionner. C'est-à-dire que les décisions se prennent en plénière, que l'on soit là ou que l'on ne soit pas là, il y a une confiance envers le collectif et on sait que la décision sera la meilleure prise pour le projet. La priorité est le projet autour de ces 3 points importants: non-violence, confiance, bienveillance. Et on fonctionne comme ça.
Cette expérience dont vous parlez, qui était difficile, ce passage-là, je ne l'ai pas connu, je n'étais pas avec vous, je suis arrivée peut-être 2 ans après. Je trouve, d'après tout ce que vous dites, je trouve qu'elle était hyper, hyper utile, en fait, parce qu'elle vous a appris, enfin, dans ce que j'entends de vos arguments, elle vous a appris énormément... la bienveillance, en fait. Je ne sais pas. J'avance comme ça. Mais il me semble que ça a pu être utile.
Mais comment on est arrivé à avoir ces soutiens-là? Parce que moi, je n'étais pas là. À ce moment-là.
Une force de persévérance.
Oui, mais comment le savoir qu'il fallait ces soutiens-là?
Quand on a déposé le permis de construire, il y avait plein de...
C'est quand tu vas chercher les sous, en fait.
Moi, je voulais poser une petite question, parce que comme j'ai loupé pas mal de parties du débat, est-ce qu'on a parlé de ce moment là, clé là où on a enchaîné l'Assemblée Générale, l'exclusion, et le lendemain, la réunion avec les partenaires, et le clash avec Pacte?
Non.
Et la réunion qu'on a fait après du collectif où on a décidé de cesser de cesser la collaboration avec le Pacte 13 en ensemble. Ça, c'est un point qui est, c'est un moment aussi qui
bon, on a parlé de la phase
très, très sensible, quoi.
Très présente qui a mené à l'exclusion. Et ça, c'est la phase qui va juste après.
Voilà, c'est ça. Parce que ça s'articule, ça s'enchaîne. En quelques jours, il n'y a pas lu que. Bon, ça s'est décidé, ça s'est donc formalisé cette exclusion de ces deux personnes. Et ensuite, le lendemain, il y a eu cette réunion avec tous les partenaires, où il y a eu un énorme clash avec le directeur de Pacte 13, qui nous a mis le couteau sous la gorge en mettant l'injonction de signer, de transmettre.
Moi, je n'étais pas dans la réunion, puisqu'à cette époque-là, j'avais quitté le collectif. Et donc, les copains m'appellent en disant « Gabi, déjà, il y avait le vote de l'exclusion des deux personnes qui posaient un énorme problème et qui empêchaient que le projet continue. Et en plus, j'étais au courant et informée que le lien s'était rompu avec Pacte 13 par le collectif, comme vient de l'expliquer Dominique à raison. Et au lieu d'être tous, on aurait pu être triste, on a perdu le projet, et c'est l'inverse, c'est une grande liberté. On s'est octroyé le droit de choisir vraiment comment on voulait vivre. Donc c'était un moment où il y avait une possibilité qui s'arrêtait, clairement, il n'y avait plus de bailleurs, mais il y avait 1000 possibilités qui s'ouvraient. Et ce moment qui aurait dû être triste, et ce moment aurait dû être un échec, et ça a été une victoire du collectif sur le sens du projet, le sens du travail en commun, le sens de ce que l'on était en train de faire.
Donc on a pu faire une différence entre construire cet immeuble dans les conditions qui étaient imposées par Pacte et en même temps, qu'est-ce que c'était réellement ce projet qui était loin d'être un projet de construire un immeuble ensemble? C'est construire un immeuble dans lequel on allait vivre ensemble, dans des conditions. Et on a pu observer ensemble, mettre sur la table, voici les conditions que posait Pacte 13.
Alors le premier, c'est une sur le loyer pour le rez-de-chaussée, 880 euros. Et après le deuxième, c'est le changement de salon commun, il devient deux appartements. Le troisième, le frais de gestion est très haut, plus de 50%. Et le quatrième, c'est qu'ils n'acceptent pas en général qu'on rentre dans le bilan de l'opération.
C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient 50% au-dessus de la moyenne nationale du logement social en frais de gestion. Et ça, ce chiffre-là, il fait péricliter un projet. C'est-à-dire qu'à la fin du bilan, au bout de 35 ans, vous êtes à... Si vous mettez 35%, vous mettez 50%, vous êtes à plus de 100 000 dans un cas et à moins de 200 000 dans l'autre cas. Donc, ils nous mettent le couteau sur la gorge en disant vous avez 3 jours pour vous décider, c'est ça ou c'est rien. Et là, le collectif, eh ben, avec ce couteau sur la gorge, on s'est dit, on a discuté, on a échangé. Bon, voilà, effectivement, on risque de perdre notre projet, mais ce qu'ils nous proposent, ce n'est pas notre projet. On n'a pas envie de travailler avec eux en plus. C'est les conditions de travail qui sont, et de collaboration qui ne sont pas acceptables. Ce n'est pas possible de vivre comme ça dans ces conditions. Et le collectif a décidé de répondre par la négative à cette injonction de Pacte 13. Et donc on a perdu notre bailleur, on a mis un an pour en trouver un autre. Et ça, c'est le collectif a parlé, ces réunions, on a travaillé, on a échangé, et on a accumulé du travail. C'est des années de travail déjà, on est en 2014, ça a commencé en 2011 le projet. Donc, on lâche et on dit non. Voilà. En fait, on lâche rien, mais c'est la façon de dire... Si j'y suis, on lâche rien, mais en fait, on est capable de lâcher un partenaire pour en trouver un meilleur. Il s'est passé 6 mois à partir du moment où on a commencé à remettre en question l'hégémonie des deux membres du collectif, jusqu'à leur exclusion, mais aussi lâcher complètement son projet, c'est-à-dire sauter dans le vide en disant on l'abandonne même le bailleur s'il faut, c'est ce que c'est pas notre projet, c'est pas ça qu'on veut vivre. Ça, Ça montre une autre qualité de collectif. Une autre qualité. On est dans autre chose. Ce projet, il y a quelque chose dans ce projet d'intangible qui n'est pas du béton, qui n'est pas des caissons bois paille, qui n'est pas des locaux, qui est de qu'est-ce qu'on veut vivre, dans quelles conditions on veut vivre. Et ça, c'est plus important que tout.
Pour moi, c'est qu'on avait gagné. On a travaillé là de 2h jusqu'à 11h ce soir-là. Qu'on avait gagné, c'est vraiment la naissance d'une des abbés modernes. Avec ça, on a gagné la confiance entre nous déjà, la solidité entre nous, et c'est ça.
Il y a une lucidité. C'est vrai qu'on a appris. Bon, on a appris à analyser un bilan d'exploitation. Et on a vu des points sensibles dans ces documents, par exemple. Donc là, il y a une connaissance, effectivement, des certains chiffres, c'est rien. Là, il y a écrit 35% ou il y a écrit 50%. Quand tu regardes ça comme ça, tu ne comprends pas où sont les tenants, où sont les aboutissants, qu'est-ce qui va se passer. Mais nous, on arrive à voir les conséquences sur notre travail futur, sur ce que ça va nous demander à nous comme travail, en tant qu'abeilles. Mais... ce qui découle sur les subventions, ça découle sur l'ensemble des citoyens, ça va bien au-delà de nous. C'est 200 000 euros qui sont réclamés en plus et qui vont aller dans les poches de Pacte 13. C'est aussi nous qui allons payer, mais c'est pas seulement nous, c'est toute une communauté qui va payer ça. Il y a la compréhension aussi d'une foncière malhonnêteté là-dedans. Hein. Et ce qui est aussi notre compréhension, alors c'est peut-être plus délicat à dire dans un micro, c'est que les partenaires qui sont là, les gens de la région, les gens de la région qui ne voient rien et qui sont prêts à lâcher 200 000 euros supplémentaires sans rien comprendre à ce qui est en train de se passer, sans même lever le petit doigt, juste en disant « Oh les abeilles, on vous chipotait bien quand même, voyez ?» Hein, on vous file un château en Espagne et vous trouvez le moyen de chipoter. Il suffit qu'il y ait deux ou trois personnes dans le collectif, c'est pas la peine que tout le monde comprenne tout parfaitement. Il suffit qu'il y en ait un ou deux qui comprennent ça, et ça élève le niveau moyen de compréhension, et ça s'homogénéise. Et il y a ce qu'on a appris, c'est en fait, il faut être courageux aussi. C'est le truc d'être courageux. Ça s'apprend à être courageux, parce que ouais, on a la trouille. On est dans une réunion, on a un mec qui arrive, il est directeur machin, il y a des partenaires, tout ça, nous on est des petits citoyens, et le mec il lève le ton, il lève la voix, il est grossier avec nous, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On se fait pipi sur nous, etc. Quand ils vont nous manger? Ah ouais, oh là là, mon Dieu. Et ça va être 35 ans comme ça? Ben non, c'est hors de question que ce soit 35 ans comme ça. On va trouver un autre. Donc on apprend ça aussi, c'est du courage. Et après, c'est vrai, c'est aussi dans le collectif, il y a quelque chose qui, quand on prend cette décision ensemble de dire non, là, il y a quelque chose de beau qui se passe, quoi. Il y a quelque chose de beau, parce que c'est vrai qu'ensemble, on décide c'est pas notre projet, on va continuer autrement. Ça, c'est, je sais pas comment on peut nommer ça. Qu'est-ce qu'il est devenu le projet là? Qu'est-ce qu'il est devenu le collectif là? Mais il y a une, je sais pas, c'est un bouquet de fleurs, quoi. C'est quelque chose qui fleurit sur un tas de fumier quelque part.
He's not coming. retour en studio. Bruno, Dominique, Anne-Marie, Marianne du collectif Les Abeilles, vous êtes toujours là. Ça va après cette écoute ? Anne-Marie, tu disais ça donne la pêche.
Ah oui, parce que on est un peu le nez dans le guidon, donc se remémorer avec l'énergie mise par Dom pour raconter cette histoire, c'est vrai qu'on se sent fort. Mmh.
Votre situation actuelle, c'est quoi en ce moment ?
Notre situation actuelle, elle a évolué depuis l'enregistrement, puisqu'il était beaucoup de questions de cette dérogation qui nous inquiétait beaucoup. Et finalement, on l'a obtenu, comme l'a dit Bruno tout à l'heure, en janvier 2019. Juste quelques mots là-dessus. Pourquoi on a eu besoin de cette dérogation ? Parce qu'au nom de la mixité sociale, il ne faut pas concentrer trop le logement social. Alors, comme il y en a déjà beaucoup dans le 3e arrondissement de Marseille, on nous disait, oui, bah, il faudrait en construire ailleurs. Le problème, c'est qu'on nous interdit de construire, sauf si on a une dérogation, mais dans le 3e, mais ce n'est pas pour autant qu'il y a des projets de logement social qui sortent au Prado ou à Andoum. Mmh. Donc c'est toujours un peu compliqué, ces politiques publiques en matière de logement social. Voilà. Alors depuis l'obtention de la dérogation, mais on a refait un tour de table des financeurs, parce qu'il faut dire qu'on est quand même bien accompagné par différents financeurs, la région, la ville, la métropole, peut-être le département. Enfin, notre projet intéresse pas mal les institutions qui ont conscience qu'il y a besoin d'innover en matière de logement. Voilà, et donc Grand Delta Habitat a obtenu la décision de financement, ce qui fait qu'on a les feux verts pour pouvoir commencer le chantier. On a changé d'architecte parce que GDH a missionné un cabinet local, puisque notre précédent architecte était à Grenoble, la Fondation Abbé Pierre, l'Union sociale pour l'habitat, c'est-à-dire que la Fédération des organismes HLM, ont financé un accompagnement du projet par Regain, qui est une coopérative PACA du réseau de l'habitat participatif. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure aussi, un travail de capitalisation de notre expérience, parce qu'on espère bien qu'elle va pouvoir servir à d'autres collectifs. Donc la capitalisation, il y en a eu deux, comme le disait Nelly tout à l'heure, celle que vous avez écoutée et puis celle qu'on a fait, qui a été faite par Regain. Voilà, les futurs habitants ont travaillé avec Amandine Carr, l'architecte, sur l'organisation intérieure des logements. C'était des séances de travail très intéressantes. Et on a réfléchi collectivement sur les matériaux à utiliser. Aujourd'hui, les architectes sont en train de rédiger le cahier des charges pour consulter les entreprises de construction. Actuellement, on bute sur le choix du mode de chauffage. Parce que nous souhaitons, comme c'est dans le permis de construire, un chauffage collectif et écologique. Hein. Ça fait partie des fondamentaux du projet. Et GDH souhaite, pour minorer les coûts de gestion, les coûts de charge, un chauffage individuel gaz. Donc on espère que le chantier pourra démarrer début de l'année 2020. Pour y emménager 12 à 14 mois plus tard.
Alors, dans ce qu'on a écouté ensemble, là, on entend bien, moi, il me semble, le double enjeu qui sous-tend tout le projet. D'une part, la dynamique collective, hein, celle de votre groupe, les difficultés que vous traversez, relationnelles, de prise de pouvoir, et donc les réponses qui sont à inventer de façon constante. Et puis, on entend bien aussi la question de l'action sociale, la question du projet politique. On voit bien que l'un nourrit l'autre. Alors la question du participatif, comme on l'a entendu, elle vous anime depuis le début, elle est au cœur du projet depuis le début. C'est aussi une vraie question démocratique. Et cette question-là du participatif, comment est-ce que vous la nourrissez ? Quelle est son actualité dans votre projet ? Dominique, peut-être, là-dessus ?
Alors, dans l'actualité du participatif... Donc nous, on tâche en tant que collectif à continuer de se renforcer internement, parce qu'effectivement, il y a du vent quand même dans les voiles. Hein. Et on doit aussi dépasser nos propres contradictions, nos propres tensions internes, qui ne manquent pas de se manifester de temps à autre. Ensuite, dans nos enjeux aussi à court terme, on tâche d'intégrer des nouvelles personnes, au collectif. C'est possible qu'il habite déjà le quartier.
Oui, parce qu'il n'est pas au complet, votre collectif, là. Quelques-uns peuvent le rejoindre, là. 4, 3, 2, 1.
Alors, en effet, le collectif n'est pas complet. En fait, il y a déjà la plupart des futurs logements qui sont déjà occupés, qui ont un preneur. Mais il demeure des logements plus grands. Il reste un T5 et un T3. Mais on a une liste d'attente, déjà, donc, avec des personnes qui s'approchent du collectif. Et bon, il y a une sorte de petit parcours du combattant.
Oui, pour rejoindre un collectif qui existe, qui est en marche.
Voilà. Bon, c'est vrai qu'on ne sait pas se mettre dans une liste d'attente et attendre qu'on nous attribue un logement. Il y a un collectif avec un certain travail à faire quand même pour que les choses avancent. Mmh. Et donc, c'est bien que de s'y mettre un petit peu, de prendre le vent et de pour s'intégrer et de se former un petit peu à cette façon d'être nouvelle. Ensuite, donc effectivement, il y a ce point de tension avec notre bailleur social Grand Delta Habitat actuellement, puisqu'on rentre dans la phase technique du projet. Il va falloir construire, il va falloir poser des pierres, mettre des gaines électriques et du chauffage, de la ventilation, tout ça là-dedans. Et là, évidemment, on commence à rencontrer quelques petites difficultés parce que le Grand Delta a ses habitudes de fonctionnement interne, c'est un professionnel, et que le collectif vient de mettre son nez là-dedans, ça ne l'intéresse pas. Ils ont décidé comment ça devait fonctionner les choses, qu'est-ce qui était le mieux pour nous et pour eux, et c'est comme ça que les choses devraient se faire. Bon, nous, on a tendance à résister un petit peu de notre côté. Et tout ça, nous, à court terme, aussi, c'est un enjeu à court terme, c'est le faire dans la bonne humeur. Voilà. Ensuite,
il faut le dire.
Il faut le dire.
Même si ce n'est pas sympa à faire, manifestement.
Non, les couleuvres empêchent le rire de se manifester, le temps que ça passe. C'est long, une couleuvre à avaler. Bon, alors ensuite, il y a des enjeux à long terme, bien sûr, puisque notre projet, c'est une initiative particulière quand même de gens qui n'avons pas simplement mis notre nom dans une liste d'attente pour se voir attribuer un logement. On se dit que le temps risque d'être long et on n'est pas du tout du style à attendre. Donc on va essayer de faire la chose en s'y mettant nous-mêmes. Et voilà, donc on a décidé de montrer que nous, en tant que citoyens, on était aptes à se réunir, à parler de nos problèmes, à les comprendre, à trouver ou imaginer des solutions parce qu'elles n'existent pas toutes, et d'établir des priorités là-dedans et s'organiser pour mettre en marche des solutions. Voilà. Et maintenant, bien sûr, une fois qu'on a montré qu'on était capable de faire ça, on se heurte au système qui existe et qui, lui, a un mode de fonctionnement qui laisse les citoyens le plus loin possible de sa capacité de décider et d'entreprendre par elle-même. Donc, ça, là-dedans, il y a des enjeux à long terme qui dépassent largement le collectif, bien sûr. Et donc, on propose, une nouvelle façon de s'organiser en tant que citoyen. Nous, on fonctionne sans hiérarchie. On met en commun nos compétences. Quand on ne les a pas, on va les chercher parce qu'elles existent aussi ailleurs. Et on met toutes ces compétences au service des autres, au service du projet commun. Voilà. Et là-dedans, ce qui est important, c'est le traitement humain. Voilà. Comment on se traite entre nous. Voilà, ça, c'est les points, on va dire, très importants à court terme et à long terme aussi.
Anne-Marie.
Oui, je voulais juste... prolonger ce que dit Dom sur la notion de participatif, parce que nous, on se revendique des idéalistes. Nous, on est des idéalistes, on n'a pas peur. On veut mettre en œuvre du participatif tel qu'on l'entend. Et du participatif tel qu'on l'entend, c'est qu'on a notre mot à dire et qu'on veut être associé, non seulement associé aux décisions, mais partie prenante à la prise de décision, à la délibération avant décision. On veut les documents, les chiffres, les faits, les dates pour pouvoir avoir toute notre place dans la prise de décision. Et ça, ça a beaucoup de mal à être entendu. Et nous, on a tendance à dire, vous nous avez promis du participatif, vous avez signé une convention avec nous pour faire du participatif, alors il est où le participatif? Et là, on s'aperçoit qu'en fait, il y a plein de sens différents qui sont portés par les gens pour le participatif. Il y en a qui disent « Ah ben, on vous explique quand même pourquoi on ne peut pas faire, ça c'est participatif. » Ou d'autres qui nous disent « Voyez le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. »
Voilà. Ce qui fait que nous, on est parti avec des grandes idées du participatif et que la confrontation à la réalité des institutions, ben, elle n'est pas toujours facile. Même si on peut dire que quand même, on n'a pas eu rien de participatif dans le projet. Nous, on considère qu'on n'a pas eu notre compte. Mmh. Donc, jusqu'à aujourd'hui.
Mmh. Alors, est-ce que cette vitalité participative, vous allez réussir à la mettre en forme dans votre vie de tous les jours dans cet immeuble qui s'appelle d'ailleurs, je crois, Place des Abeilles, c'est ça ? C'est le nom de l'immeuble ? Place des Abeilles ? Non, c'est pas le nom de l'immeuble. Je sais pas, j'ai lu ça quelque part, je croyais, mais...
C'est rue Julien.
Alors, il est installé... il est pas installé du tout. Il sortira de terre, normalement, à partir de début 2022, rue Julien, comme tu le dis, Marianne. On peut dire quand même deux mots, même si on voit qu'il y a plein de choses là qui sont en ébullition et des choses un peu fondamentales, des choses franchement politiques. Hein, cette question du participatif dont on entend tous parler, dont on nous rabat les oreilles... quand des groupes de citoyens décident vraiment de le mettre en œuvre, et ben, comme tu le dis Anne-Marie, tout le monde n'en a pas le même désir. En tous les cas, vous êtes en train, Marianne, de réfléchir aussi à la façon dont vous allez vivre ensemble, dont vous allez habiter et cet immeuble et le quartier d'ailleurs, puisqu'il ne s'agit pas que d'habiter entre vous, mais aussi d'habiter avec d'autres Marseillais.
Tout à fait. Ce qui est important pour nous, c'est aussi le lien social et aussi ce que disait très bien Dominique, l'aspect humain, mais concret. Il ne suffit pas de dire « je suis humain », mais aussi en concrétisant, ça veut dire qu'on va habiter ensemble, mais ça ne sera pas une communauté. Chacun aura son appartement, mais on aura des lieux communs. Et aussi, on ne veut pas se détourner du quartier. Ça veut dire aussi inclure des personnes du quartier. Alors, comment ça va se faire ? Je vais le dire très rapidement parce qu'on est encore en train de réfléchir là-dessus. Et que je pense que quand ça va être... on va commencer à avoir les premières pierres, on va être encore plus actifs.
Oui.
D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais toutes les personnes qui sont dans le projet ont le désir d'un collectif. On ne peut pas arriver en se disant « je vais avoir un HLM ». C'est vraiment pas seulement avoir un appartement, mais c'est aussi cette notion collective que tout le monde doit développer et pour lequel on doit travailler, chacun avec nos possibilités et nos richesses. Mais au-delà de nos propres richesses, il y a aussi essentiellement les richesses du quartier qu'on va inclure. On ne va pas être redondant en devenant une maison de jeunes, pas du tout. C'est-à-dire qu'au rez-de-chaussée, on aura des activités. Et ceci souvent, et en partenariat avec d'autres structures, donc ça s'ouvre et en même temps avec une rigueur, ça veut dire que les gens participeront aux activités. Et on fera appel aussi à des gens de l'extérieur, de façon à ne pas s'enfermer. Mais c'est quand même le quartier Saint-Mauron qui est notre priorité. Donc, ce dont on a pensé aussi, c'est à inclure des personnes qui veulent chercher avec nous. Ça veut dire de nouveaux adhérents ou des personnes que ça intéresse de tout simplement s'intéresser au projet pour peut-être le développer ailleurs ou tout simplement pour voir comment il marche et va être un peu des cobayes, pourquoi pas à Marseille, mais on veut bien l'être. C'est quelque chose qui nous intéresse. D'ailleurs, je vous invite tous à participer à l'Assemblée Générale le 19 novembre à 18h30 à la Maison pour tous, rue Félix Piat, au métro national. C'est tout près du métro national. Et voilà, on vous attend. Venez avec ce que vous avez envie d'apporter.
Ça, c'est une bonne recommandation. Je vais réfléchir à quoi je vais apporter parce que je crois que je vais vous rejoindre pour cet AG. Et puis dire aussi qu'on s'est mis d'accord pour que... Là, c'est la première émission qu'on fait ensemble, mais on s'est mis d'accord pour qu'il y en ait d'autres en 2020 et qu'on puisse comme ça mettre vos curiosités autour du micro, s'intéresser évidemment au logement et à l'habitat à Marseille, mais aussi s'intéresser au pouvoir d'agir, s'intéresser aussi... à l'action sociale dans un quartier et aux différentes formes qu'elle peut prendre à l'heure actuelle à Marseille. Il y a beaucoup de gens qui font plein de choses et que je pense que vous allez avoir envie d'inviter autour de ces micros. Donc on va se retrouver, on ne dit pas quand, mais on va se retrouver à un moment ou à un autre dans pas longtemps. On dit aussi qu'on a fait une petite plateforme internet et qu'on peut retrouver cette émission et puis d'autres petits morceaux de vous sur un site internet expérience.placedesabeilles, abeilles donc avec un h.org. On se fait un petit mot de la fin pour les uns et les autres. Moi j'ai un petit mot de la fin, je sais ce que je veux dire à la fin, mais ça peut être juste au revoir Bruno, hein. Ça peut être ça aussi ou rien même, ça peut être motus. Dominique, un petit mot de la fin?
Oui bien sûr, il y a toujours un futur.
c'est un grand mot de la fin ça. Marianne ou Anne-Marie?
Continuons ensemble.
Anne-Marie?
Je pense que c'est important qu'on s'inscrive non seulement dans le quartier, comme l'a bien dit Marianne, mais aussi dans le logement à Marseille, la politique du logement, qu'elle soit publique ou privée, et l'implication des acteurs et des habitants dans le logement à Marseille. C'est notre petite pierre à l'édifice, très grand édifice.
Et Bruno?
Eh bien, au revoir tout simplement et à bientôt pour tous ceux qui voudront venir nous rencontrer dans notre futur quartier de Saint-Mauron.
Puis on s'est mis d'accord sur une brève pour terminer cette émission qui concerne tous les Marseillais qui s'ancrent à Noailles cette semaine, la semaine là dans laquelle on est. Jusqu'au 10 novembre, c'est Noailles debout, vive Noailles. Un an après les effondrements, toute cette semaine rendra hommage aux victimes et aux familles des délogés et aussi un hommage évidemment au quartier de Noailles. Mais ce sera aussi une semaine de célébration pour célébrer la vie des rues de ce quartier, pour célébrer ses habitants. Une année qui a été dure, mais qui, dit le collectif Noailles debout, nous a rendus plus proches et solidaires, aguerris et plus experts. Cette année, nous voulons faire la lumière. Et il vous donne rendez-vous samedi, ce samedi-là, à 15h, au cours Julien, pour une manifestation demandant un logement digne pour tous. Merci les abeilles. À bientôt sur les ondes de la grenouille.
À samedi.
Et à samedi dans les rues de Marseille.
Surtout à samedi.